Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Bonsoir et bienvenue dans Cadenas Directionnels et Lampes UV, votre émission estivale consacrée aux jeux d'évasion. Les jeux d'évasion, une industrie qui est tellement créative au Québec qu'on a voulu lui consacrer tout l'été finalement à CKRL. Jessica Leb au micro, je suis ravie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. On va être ensemble jusqu'à 20h30. Je suis toujours en compagnie de mon co-animateur de choc, Marc Raymond. Bonjour Marc.
De choc, bonjour.
Bah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À chaque émission, on vous fait découvrir les jeux d'évasion sous ces différents aspects et surtout tous les créateurs qui se trouvent derrière ce divertissement. Un jeu d'évasion, on le rappelle, on a généralement 60 minutes pour accomplir une mission. Souvent, c'est l'évasion, mais vraiment, l'imagination est la limite pour créer des thèmes de toutes sortes. L'évasion la plus courante a été celle de la prison, mais comme je vous le dis, on a inventé toutes sortes d'histoires au Québec comme ailleurs à travers le monde pour vous emmener, vous et votre équipe, minimum 2-3 personnes généralement, pour accomplir cette mission. On compte maintenant 6 entreprises à Québec où on peut aller faire la mission du jeu d'évasion en famille, entre amis ou entre collègues. Et souvent, quand on rentre dans cette salle où il faut résoudre des énigmes, trouver des codes, comprendre ce qui se passe dans cette histoire, bah pour nous faire y croire, il y a un décor. Et les décors sont très variés. C'est Marc qui va nous en parler d'ailleurs. Quel genre de décor on va avoir dans un jeu d'évasion, Marc?
Ben, dans le fond, comme tu as dit, les décors vont aller avec le thème qui a été choisi. Puis, ben, il y a beaucoup d'imagination de toutes les entreprises de jeux d'évasion du Québec. Bon, dans les plus classiques, comme tu as dit, on peut être amené à fuir d'une prison. Ou, ben, bien sûr, on va avoir été emprisonné par erreur. On n'a jamais rien fait de mal.
Ça arrivait une fois qu'on a fait quelque chose de mal au Québec et qu'on pourrait aller en prison, en tout cas. C'est une autre histoire.
À Margeant Tremblay.
Mère du Saguenay.
Ben oui. Donc, ensuite, on peut fuir une cabane dans les bois pour éviter un tueur fou. On peut explorer une pyramide, une île déserte à la recherche de trésors. On peut partir en mission de sauvetage dans les différents cercles de l'enfer. Puis on peut même aller se balader dans des rêves d'enfants. C'est assez varié. Puis, ben, parlant d'enfants, ben, eux, ils ont beaucoup d'imagination. T'sais, ils sont capables de prendre une boîte de carton, des coussins, une chaise, deux couvertes, puis faire un château merveilleux. Mais pour les adultes, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, habituellement, c'est pas le cas. Fait que c'est dommage pour les compagnies de boîtes de carton, parce que les jeux d'évasion, ils ont les adultes comme public cible. Donc, comme le jeu d'évasion est une activité, plus une aventure immersive que juste une suite d'énigmes, t'sais, sans lien, ben, le décor va nous aider à plonger dans l'univers puis à nous faire croire au jeu. Puis, ben, si 4 murs blancs, 2 chaises puis un bureau, c'est parfait pour un scénario dans un bureau de comptable, ben, pour nous faire croire une pyramide, ça va prendre plus que les 4 coussins. T'sais.
Effectivement. Ça oblige vraiment les créateurs à être créatif, c'est très redondant ce que je raconte, mais en tout cas, oui, à relever ce défi de l'immersion à travers le décor.
Ben oui, puis donc ça tombe bien parce que, comme je disais, les entreprises redoublent de créativité, d'ingéniosité pour faire leur décor. Ça peut prendre des semaines, voire des mois et des mois à créer. Il y en a qui vont allouer des budgets impressionnants à ça pour offrir aux participants des terrains de jeu qui vont être dignes d'un décor de film ou ben, d'une attraction de Disney.
Ça en dit long sur ce que vous pouvez voir, même au Québec. Hein, on a l'impression qu'il faudrait aller à New York ou dans les grandes villes.
Non, vous n'avez pas besoin d'aller à Disney. Là.
Pas besoin.
Restez à Québec, vous allez.
ça, ne serait-ce ça qu'à vaut Québec. La peine. Effectivement.
Puis, ben, mais sauf qu'on ne se le cachera pas, ben, c'est comme dans tout, ben, les décors ne seront pas beaux pareils partout. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les budgets qui ont les mêmes budgets, qui ont le même talent créatif ou qui ont même le désir de s'orienter, d'aller dans cette direction-là, mettre autant l'emphase sur le décor. Mais dans tout ça, est-ce que ça a vraiment de l'importance pour apprécier le jeu? Non.
C'est ce qu'on s'est posé comme question, et c'est d'ailleurs la question aussi que tu as posée à tout un groupe d'accros de jeux d'évasion, Marc.
Oui, j'ai fait un sondage très, très, très scientifique. Merci Facebook, sur ouais, un groupe Facebook qui s'appelle les accros de jeux d'évasion.
Qui se concentre majoritairement au Québec, d'ailleurs.
Oui, voilà. Et sur 125 répondants, il y a 75% des gens qui ont dit que le décor était aussi important que les énigmes. Ce qui semble être logique, c'est tant qu'à avoir quelque chose, aussi bien que tous les éléments du jeu soient parfaits. Mm-hmm. Ensuite, 23% disaient que la qualité des énigmes devait primer sur la qualité du décor, et seulement 2% que la qualité du décor devait primer sur la qualité des énigmes.
Donc on voit que les attentes sont pas si différentes que ça finalement, 75% bon pour un jeu équilibré, 23% qui se concentrent sur les énigmes, mais alors qu'on était assez surpris parce que souvent les commentaires sur ce groupe-là quand ils ont aimé un jeu, c'est souvent sur les décors.
Oui, c'est ça. Ce qui marque, dans le fond, ce que tu te rappelles le plus après, ça va être le décor là, dans 2 ans.
Plus que les énigmes, c'est vrai.
Ben, c'est ça, faut pas dire « Ah ouais, cette énigme-là était vraiment, vraiment cool », mais tu vas dire que le décor était cool. Donc, ça m'a un peu étonné de voir que si peu de gens avouaient que le décor était plus important que la qualité des énigmes au final. Quoi qu'il ne faut pas dénigrer non plus les énigmes, mais bon.
Oui, c'est tout aussi important, effectivement. Et on a un avis, on a eu la chance de trouver un accro comme nous, à Québec. Il y en a plusieurs, je sais. D'ailleurs, on salue le groupe des accros. On espère qu'ils nous écoutent et qu'ils nous suivent dans ce rendez-vous estival. Mais en passant, un appel sur la page Facebook des Captivés, hein, qu'on gère avec Marc, puisque nous avons un blog du même nom qui vous parle encore une fois de jeux d'évasion. On a réussi à trouver un accro de Québec qui lui a fait une vingtaine de salles, dans la ville de Québec principalement, mais je sais qu'il songe à aller ailleurs aussi. Sébastien Côté est au micro. Bonjour.
Salut.
Alors Sébastien, toi, les décors, ça représente quoi dans l'expérience des jeux d'évasion quand tu y vas?
En fait, je pense que c'est vraiment, comme 75% des gens disent, un élément extrêmement important parce que, tu sais, je veux pas, mettons qu'on m'envoie dans un cimetière, moi, dans un cimetière, il y a des pierres tombales en pierre avec des choses gravées dessus. Mmh. Fait que c'est sûr que si j'arrive dans une salle puis que, mettons, il y a une pierre tombale, fait vécu ou pas, mais bref, s'il y a une pierre tombale avec qui est faite en plywood peinturé avec du texte écrit au charpie dessus, moi c'est sûr que je vais être concentré sur les énigmes, mais en même temps je vais faire comme je suis pas vraiment dans un cimetière, tu sais, je suis vraiment plus dans un décor fabriqué chez Home Depot là. Fait que je pense que c'est vraiment là un élément extrêmement important là, les décors. Là. Mm-hmm.
T'as quand même des attentes toi là-dessus quand tu vas faire un jeu d'évasion?
Ah oui, définitivement. C'est l'effet wow. Au moment où ce qu'on rentre, avant même de commencer à penser aux énigmes, on est en mode observation, on regarde uniquement les décors, on regarde partout, on regarde tout. Fait que c'est vraiment le point principal finalement là.
Et à l'inverse, dans ton expérience à Québec, des décors qui t'ont marqué, où tu n'aurais pas pensé le vivre presque pour vrai, ce serait quoi?
On parlait tantôt de les pyramides, d'aller dans un monde égyptien, dans une tente, ensuite aller ramper. Là, dès qu'il y a des éléments qui sortent de l'ordinaire, là, il faut ce qu'il faut ramper, ou ce qu'il faut grimper, ou ce qu'il faut rentrer par les fenêtres d'une école, rentrer de quelque manière que ce soit, là. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Des éléments qui sortent de l'ordinaire, bref. C'est très plaisant.
Les expériences que tu viens de citer ont lieu à Québec, hein. Donc, je lance l'appel à ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore fait. Oui, vous allez vous retrouver dans des pyramides et oui, vous allez peut-être rentrer dans une école clandestinement. Voilà, pour nommer quelques exemples. Est-ce que quand tu choisis un jeu d'évasion, au moment de le réserver, le thème crée une attente sur le décor aussi? Bon, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que ça fait qu'au moment de la réservation, tu penses au décor potentiel que peut avoir la salle?
Oui, définitivement. effectivement, au moment où ce qu'on choisit, surtout la première fois qu'on va dans un endroit, on est, tu sais, j'ai le choix entre, tu sais, mettons que j'aime les décors d'horreur, bon, ben j'ai le choix entre une caverne aux merveilles et une morgue, ben je vais définitivement aller chercher la morgue. Là. Fait que là, je vais me mettre dans le contexte, là, je vais aller lire sur les morgues, je vais regarder qu'est-ce que c'est, je vais regarder tout ça, puis là, je vais faire waouh, là je m'imprègne, là, je vais rentrer, puis il va faire froid, puis ça va être lugubre, puis là, je le vois, là, je le sens, puis ça influence le choix des salles qu'on prend, évidemment.
On consacrera une émission au thème de jeu, d'ailleurs, mais je vois que tu as des affinités avec Marc, alors, hein, parce que nous, le premier jeu qu'on a fait, et je pense tout comme toi, c'était Pandémie, chez A Double Tour, en 2016, et puis, ben, le thème, c'était des zombies. Voilà. Mais ça, c'était le choix de Marc, évidemment.
Et est-ce que le... Quand tu choisis un jeu, là, tu parlais du, tu choisissais en fonction du thème que t'aimais. Est-ce que tu choisis en fonction de la qualité du décor? Est-ce que tu vas t'empêcher d'aller faire un jeu si tu as un doute sur la qualité du décor?
À un certain niveau, oui. Je dirais pas à 100%, ça me freinera pas dans le sens je barre aucun endroit par rapport à ça, mais c'est définitif que parce que là je nomme pas de nom là, mais mettons
oui,
de fond,
c'est bel effort, bravo.
Voilà, fait que je vais à un endroit une des places d'évasion et puis j'ai pas été impressionné par le décor autant qu'à un autre endroit, ben c'est sûr que le prochain coup que je vais choisir une salle, je vais toujours dire ah ben je vais retourner où ce qu'il y avait les beaux décors, puis ah c'était malade d'arriver tu sais direct, puis tu sais là l'animateur il te mettait dans l'ambiance au bout puis tout ça, tandis qu'un autre endroit ben c'est bon, ben tu rentres là puis t'écoutes la vidéo puis bonne journée, ben ça j'étais comme ouais j'ai moins le goût, tu sais, fait oui c'est sûr que c'est ça fait partie des appréhensions puis des choix qu'on fait là par la suite.
Ça, c'est un autre aspect encore avec le maître de jeu qui nous accueille et qui participe à l'immersion du jeu. Ça aussi, on consacrera une émission au maître de jeu.
C'est pour ça qu'on est là toute l'été.
Voilà, exactement. Voilà. Il y a trop de choses à dire. Mais merci beaucoup, Sébastien Côté.
Il n'y a aucun problème.
Tu restes avec nous parce qu'on va te ressolliciter sur ton opinion sur les décors, sur l'expérience de décors de jeux d'évasion à Québec. Et dans quelques instants, on va accueillir l'entreprise Cabinet Mystery. C'est la toute dernière des jeux d'évasion à avoir ouvert à Québec. Et on va parler de leur rapport au décor aussi, parce que pour eux, ça commence dès l'accueil. C'est pas pour rien que ça s'appelle Cabinet Mystéris. Mais avant ça, sélection musicale de Marc Raymond encore aujourd'hui, très inspirée d'ailleurs.
Oh yeah, on s'en va écouter la très séduisante Tina Turner avec We Don't Need Another Hero, tiré de Mad Max Beyond Thunderdome.
Et pourquoi ce choix? J'ai très envie de savoir.
C'est en lien direct avec le scénario qu'on va avoir fait tester pour aujourd'hui.
Oui, parce qu'on vous rappelle, on essaie régulièrement de faire tester un jeu d'évasion à un artiste de Québec et cette semaine, c'est Hera Ménard qui s'est prêté au jeu. On le découvrira juste après. Tina Turner, voici We Don't Need Another Hero à CKRL 89.1.
Out from the wreckage, can't make.
C'était clairement de la bombe.
Ah oui, ben la très séduisante Tina Turner, tu m'avais caché tes goûts, Marc Raymond.
Je vais te montrer le poster.
Merci, au travail, j'imagine. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, CKRL 89.1. Oui, ça a un lieu avec des jeux d'évasion, d'après Marc, puisque c'est extrait de la bande originale du film Mad Max Beyond Thunderdome. Et oui, et pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil à l'un des scénarios de Cabinet Mystéris, notre entreprise invitée aujourd'hui pour parler des jeux d'évasion à Québec. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Cadenas Directionnels et Lampe UV sur les ondes de CKRL jusqu'à 20h30. Jessica Leb, toujours avec vous. Cabinet Mystéris, toute dernière entreprise à avoir ouvert à Québec, c'était en décembre 2018, avec un puis deux scénarios très rapidement. Pour vous en parler aujourd'hui, je reçois deux des copropriétaires, Sabrina Cloutier. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et également Thomas Roussel.
Allô.
Racontez-moi un petit peu comment est né Cabinet Mystéris, parce que vous n'étiez pas si éloigné du monde des jeux d'évasion. Au départ, vous aviez une certaine expérience aussi.
Sabrina, moi et un autre de nos collègues absent aujourd'hui, Alexandre, avait travaillé par le passé dans un jeu d'évasion et on a décidé de laisser notre esprit créatif prendre le dessus et de pouvoir développer nos propres projets.
Oui, donc on en mangeait littéralement, puis ça rejoignait, c'était un beau point central sur plein de choses qu'on aimait faire artistiquement parlant. Puis à un moment donné, on a quitté pour des projets personnels, puis on y est comme revenu naturellement, étant donné que on a eu la piqûre. Donc voilà, on est parti voler nos propres ailes pour ce projet-là, puis on est bien content.
Je connais pas l'ancienne vie de Thomas, mais
c'est la même que la mienne.
Oui, vous êtes tous les deux artistes dans la vie, c'est
non.
Ça que je voulais dire.
J'ai rien dit, excuse-moi.
En fait, moi, je viens de l'académie.
Oui, non,
j'étais en train de faire ma maîtrise et comme on dit, la philo, ça mène partout. Tant qu'on n'y reste pas.
Je dirais qu'on est très complémentaires, en fait, Thomas et moi, sur des plans très différents, en fait.
Mais tout ça pour dire, Sabrina, je sais que tu es toujours dans le milieu artistique, donc
oui.
Ça a ouvert une porte, les jeux d'évasion, que tu n'aurais jamais soupçonné il y a quelques années.
Absolument, puis moi, en fait, c'est plus au niveau du théâtre de rue que j'ai fait mon parcours personnel, donc je fais de l'animation ambulatoire depuis 10 ans. Donc, justement, les maîtres de jeu qui sont très importants chez nous, c'est quelque chose ça allait de soi pour l'expérience de... En fait, l'expérience 4D, donc les personnages font un peu partie du décor, en fait. Puis c'est par ce chemin-là que j'ai abouti dans les jeux d'évasion. Puis je vois ça comme un point de centrale créative, un potentiel incroyable pour ce qui est de tout ce qui est théâtral. Donc,
vous êtes toute une équipe derrière le cabinet Mystérise. D'ailleurs, vous êtes combien au total dans l'équipe comme copropriétaire, concepteur?
Comme copropriétaire, on est 5. L'équipe de concepteurs, ça varie en fonction des semaines, des fois.
Des semaines et des inspirations. Mais je dis 5 parce que chacun a sa spécialité, finalement.
Absolument.
Toi, Thomas, t'es plus dans la conception des énigmes et des scénarios?
Exact.
Et Sabrina?
Donc, moi, je suis plus en direction artistique. Donc, je m'occupe de l'esthétique, les costumes. C'est moi qui ai fait l'accueil, d'ailleurs, dans lequel vous allez aller.
On parle de décor. Cabinet, hein,
oui, donc, c'est un projet père-fille avec moi et mon père. On a fait ça avec plein d'amour. Puis sinon, je suis la personne qui est en charge de tout ce qui est animation, personnages, interaction aussi, en tant que maître de jeu. Comment apporter des indices, mais en restant dans le personnage, sans trop en donner aussi. On fait juste remettre sur les rails. Puis comment bien faire un personnage, exemple, être un méchant, mais méchant de Disney, entre guillemets, pour pas franchir certaines limites, bien sûr, parce qu'on sait jamais à qui on a affaire, même si on cesse bien les joueurs, faut faire attention quand même à s'adapter en fonction de à qui on a affaire. Donc.
Et les énigmes sont parfaitement en lien avec le décor, j'imagine. Thomas, toi qui as imaginé, j'imagine, en grande partie les deux scénarios qu'on peut faire désormais chez Cabinet Mystéris, à savoir Ferraille Hurlante et Marcheur de Rêve. Est-ce que quand tu conçois ton jeu, ton scénario, tu as déjà un décor en tête ou tu laisses ça au scénographe, parce qu'il y a aussi une équipe de scénographes qui travaille avec vous?
Il y a un peu un mélange des deux. D'abord parce que je suis un très mauvais illustrateur.
D'accord.
Faut considérer ça.
Mais ça peut être dans la tête, pas besoin de dessiner, mais oui.
Il faut absolument dessiner en revanche. Il faut être capable de regarder le plan et être sûr qu'il y a un bon rythme. Et le rythme y apparaît aussi bien lorsque t'es en train de faire une carte déroulement, où c'est vraiment uniquement schématique, que lorsque tu prends le plan physique de l'endroit et que tu le découpes en fonction de quel type d'énigme se trouve où et comment est-ce qu'ils viennent s'interagir entre eux, surtout lorsque, comme chez nous, il y a plusieurs salles qu'il faut parcourir.
Par ailleurs, j'aimerais en profiter pour saluer Éric Lisotte, qui nous écoute peut-être, qui est notre scénographe en chef de Ferraille Hurlante, ainsi que Samuel et Rose Normand, qui ont été les principaux scénographes de Marcheurs de rêve. Donc, sans eux, on n'aurait pas réussi à faire ces magnifiques projets-là.
S'arrêter là, ça aurait pas été moi.
Moi, je suis pas pire en peinture, mais la construction, on m'oublie. J'ai vraiment aidé seulement pour la patine.
Vous l'entendez, ça demande de multiples talents pour concevoir des jeux d'évasion. Il y a ce qu'il y a dans la tête de Thomas, le réalisable, le budget aussi. Marc en avait parlé dans sa chronique. L'espace que vous avez aussi, je ne l'ai pas précisé, vous êtes installé dans Sainte-Foy.
Oui.
L'espace que vous aviez, est-ce que c'était, entre guillemets, du luxe parce que vous pouviez faire toutes sortes de choses ou non, vous vous sentiez restreint quand même pour le
décor? On a 3500 pieds carrés, puis on avait, dans le fond, la mère d'Alexandre qui est architecte, donc qui a fait les plans pour nous. À la base, c'était une très, très grande salle vide, alors on a fait venir un entrepreneur général pour tout monter les murs de zéro, mais c'était une grande salle avec rien dedans au départ.
Un ancien CrossFit, donc ça laissait de la latitude.
Quand même, mais on a quand même essayé de prévoir notre croissance maximale dès le début, là, pour essayer de maximiser l'espace.
On savait déjà où allaient se trouver essentiellement nos salles et de quelle taille allait être chacun des scénarios.
C'est de penser long terme très, très rapidement.
Et l'accueil, cabinet Mystéris, pour cabinet de curiosité.
Absolument.
Vous êtes, on peut le dire, le rare jeu d'évasion à Québec à offrir un accueil qui va marquer les esprits à partir du moment où on rentre et que la cloche sonne, parce qu'il y a une petite cloche qui sonne quand on franchit la porte de cabinet Mystéris. Sabrina, c'est toi qui l'as imaginé ou c'est un concept de groupe, j'imagine?
Moi, je me suis inspirée d'un concept que j'ai vu en Nouvelle-Orléans. Donc, qui était un cabinet de curiosité et un jeu d'évasion. C'est pas moi qui ai inventé l'idée en tant que telle. Je sais qu'en Europe aussi, il y a quelques endroits où c'est exactement le même principe. On l'a mis à notre sauce. Donc, on est allé dans un univers un peu à la Jules Verne. Je suis une très, très grande fan des années 20, années 30. Donc, justement, on entre, il y a une vieille radio qui joue. Donc, on est déjà dans un univers un peu feutré. Ça porte à la confidence. Aussi, c'est drôle, mais les gens sont très calmes dans l'environnement dans lequel on est parce qu'il y a des vitrines de curiosité, il y a plein de choses à regarder, des créatures fantastiques, vous allez croiser toutes sortes de choses et ça va continuer d'aller en s'améliorant hein, aussi.
Ramasser sur du Kijiji, par exemple.
Entre autres, je vous dirais que j'ai des contacts de vrais cabinets de curiosité, là, donc ça, on en reparlera peut-être.
Ouais.
Donc, on a des vraies curiosités à regarder.
En savourant votre thé.
Tout à fait, oui. On est en partenariat avec le CEBS qui offre le thé aux gens, donc aux participants avant, pour se calmer ou s'énerver, c'est à voir selon votre résistance à la théine. Mais quand même, le but, c'est que dès le départ, vous êtes ailleurs. Parce que souvent, ceux qui sont habitués de faire des jeux d'évasion le savent, il y a des moments d'attente parfois. Des fois, il y a des choses qui brisent. Nous, on court en arrière, on répare des trucs, on est en train de gérer du retard, peu importe. Donc,
remonter une salle.
On voulait que les gens aient un moment de « Ah, c'est le fun, on vit quelque chose de différent, on est ailleurs, on est dans un autre univers » dès le début, dès l'entrée dans l'endroit. Donc, ça fait une différence, je pense, quand même, là, pour avoir une expérience complète.
Ça fait son effet aussi. Parlons des deux scénarios. On va peut-être mettre la table déjà pour Ferraille Hurlante, qu'on a fait tester à notre artiste de la semaine, Héra Ménard, qui n'avait jamais fait de jeu d'évasion. Évidemment, nous, Marc et moi, en tant qu'accro de jeu d'évasion, on a envie que le plus de monde possible découvre cet univers. Je pense qu'on ne lui avait même pas dit ce qu'elle allait faire. Non. Elle a embarqué tout de suite.
C'est encore mieux.
Mais oui, c'est ça. Peut-être parler un petit peu de Ferraille Hurlante. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet univers-là? Parce que là aussi, il y a un décor particulier.
On est les premiers de la province. J'ai fait des recherches quand même pour. On voulait aller dans des thématiques différentes de nos voisins. On les aime beaucoup. Donc, on a fait une liste des thèmes qui revenaient le plus souvent pour essayer de les éviter, pour pouvoir offrir quelque chose de différent, tout simplement. Donc, on va dans l'invraisemblable majoritairement. Et un univers post-apocalyptique, il n'y en avait pas. Donc, le plus près de nous était à New York. J'étais surprise. Donc, on a sauté sur l'occasion, bien sûr. Donc, je dirais que c'est un bel hommage. Donc, lettre d'amour à Mad Max, à Fallout, Borderlands. On réinvente pas la roue dans le post-apocalyptique, c'est certain. Mais je pense que ça fait son effet. Alors, les gens sont pris en otage par des maraudeurs. Leur objectif, c'est de profiter d'un moment d'inattention parce que les maraudeurs se font attaquer par un autre gang de rue. Donc, ils quittent pendant un moment et ils essaient par la suite de se déprendre de cette prise d'otage pour éviter de se faire trancher la gorge, rien de moins.
C'est quoi des maraudeurs? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît
ces
références-là.
Dans un univers post-nucléaire, imaginez que vous vivez dans des décharges, donc poubelles vivantes, la terre a de la misère, et le but c'est de vivre dans un univers désertique, de chercher de la nourriture, de l'eau, des armes, et tout le monde est en free-for-all, un peu à la Walking Dead, moins les zombies. Donc c'est l'homme le vrai danger dans cette situation-là. Ceux qui n'ont pas vu Mad Max...
Il y a des femmes
Max,
aussi qui sont passablement dangereuses. Dans cet univers-là.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, nos comédiennes font tous peur que nos comédiens, même plus parfois.
Mais des choses qui est remarquable à propos de Ferraille Hurlante, c'est aussi dans notre façon de travailler. Il y a l'idée que oui, on a une thématique, ici le post-apocalyptique, un post-apocalyptique rétro, parce que c'est la bombe est ici tombée dans les années 60, mais aussi qu'on travaille avec des thèmes dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire vraiment arriver avec... une espèce d'ensemble de signification qu'on veut donner d'emblée à l'univers de jeu, puis qu'on veut qu'à la fin, vous l'ayez un peu en tête. Dans Ferraille Hurlante, c'est s'arranger avec les moyens du bord. Ce qui est un peu comique, c'est qu'au final, il y a eu beaucoup de moments de la conception, construction du décor qui faisaient aussi correspondre ce thème-là, où on était comme « Bon, comment est-ce qu'on le fait? Ben, » avec les moyens du bord.
Ben, exact. Et puis, je pense que Thomas est très... Il prend beaucoup de précautions sur, justement, c'est quoi les objets qui vont servir pour les puzzles. Je vous vendrai pas de punch, mais tout ce qui est casse-tête, énigme et tout ça, est cohérent avec l'univers. Ça, c'est tellement important pour nous. Puis, Thomas a réussi à le faire avec brio, justement, dans son design de salle.
Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, je suis dans le design de la troisième salle, parce que je suis comme « Ah, il faudrait que ça soit un peu plus cohérent encore. Encore un peu plus cohérent. »
Donc, on veut que tout soit, en fait, le plus homogène possible.
Oui, parce que là, vous avez le bénéfice de l'expérience que vous n'aviez pas pour la première. Vous savez un peu plus ce qui est réalisable ou non en fonction de vos moyens, de vos ressources humaines aussi. Donc ça doit beaucoup
Au niveau
aider.
Des matériaux aussi, on a appris énormément. Ouais. Donc je fais beaucoup, beaucoup de retouches de peinture avec les éléments qu'on a fait en mousse. Donc ça paraîtra pas que c'est de la mousse, je vous le promets. On a entoilé le tout, mais je peux vous garantir que les retouches de peinture sont fréquentes aussi, mais on fait bien attention aux détails.
Il y a beaucoup de travail dans ces salles, on n'arrête pas de vous le dire à chaque émission, ce n'est que la troisième. Pourtant, on va emmener dans quelques instants Héra Ménard dans le scénario Ferraille Hurlante. A-t-elle survécu? Elle n'avait aucune idée, hein, je le rappelle, à quoi s'attendre. et ses coéquipiers non plus d'ailleurs, et c'est ça qui va être très, très drôle. On va vous faire écouter ça dans les prochaines minutes. Restez avec nous, vous êtes toujours dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, votre émission consacrée aux jeux d'évasion pour tout l'été à CKRL 89.1.
CKRL.QC.CA. Le nouveau festival Québec Jazz en juin est présenté du 20 juin au 30 juin. Plus de 30 spectacles mettant en vedette près d'une centaine de musiciens dans plus de 10 lieux du centre-ville, ainsi que sur l'avenue Maguire. Brad Meldow, le réputé trompettiste Christian Scott, le bassiste Alain Caron, la légendaire chanteuse américaine Shayla Jordan font partie des têtes d'affiche de cette première mouture. Québec Jazz en juin, du 20 au 30 juin. Présenté par Arte Boréal en collaboration avec les foyers Dombard et l'hôtel Château-Laurier Québec. Programmation sur jazzenjuin.com.
Sur ces notes toutes innocentes, nous voici de retour dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, votre magazine consacré aux jeux d'évasion pendant tout l'été sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Jessica Leb et je vous dévoile l'une de mes nombreuses passions, mais celle-là est vraiment très 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 palpitante. Elle nous a permis à Marc Raymond et moi, Marc qui est toujours là, hein.
Toujours.
Toujours, toujours, à faire le tour du Québec et même à visiter certains lieux plus insolites comme des jeux d'évasion à Puerto Rico. Parce que oui, on est en vacances, mais on fait des jeux d'évasion pareil. On aura peut-être l'occasion de vous en parler au courant de l'été. On est toujours avec nos invités de Cabinet Mystérieux, Sabrina Cloutier et Thomas Roussel, qui nous dévoilent les coulisses de création des jeux d'évasion, particulièrement autour des décors aujourd'hui, parce qu'on se pose la question, le décor est-il important pour apprécier un jeu d'évasion? Je vous rappelle, on a emmené l'artiste de Québec, Héra Ménard, on l'a emmené faire son tout premier jeu d'évasion chez Cabinet Mystérieux. Elle s'apprêtait à rentrer dans Ferraille Hurlante, scénario post-apocalyptique. On s'est fait prendre en otage par des maraudeurs, un univers inspiré de Mad Max ou encore Fallout. Alors à tous les amateurs du genre, c'est sûr que vous allez y reconnaître de nombreux échos. Pour les autres, vous allez vous laisser emporter dans cet univers, c'est certain. Alors on a voulu prendre les impressions d'Héra Ménard avant d'entrer dans le jeu. Les voici, puis Thomas et Sabrina, je vous sollicite là-dessus, à savoir, est-ce que vous reconnaissez ce genre d'attitude de joueur? Vous vous envoyez défiler tellement, peut-être que son profil ressemble à celui de beaucoup d'autres. La voici.
J'ai entendu parler vraiment souvent de jeux d'évasion, puis j'avais très hâte d'en faire un. Puis là, je suis vraiment contente de venir tester ici.
Comment tu te sens? Tu t'attends à quoi?
Je m'attends à pas être très bonne, être stressée aussi sûrement un peu, mais avoir bien de fun.
Mais bon, t'as vécu sur un bateau, ça devrait aller là.
Ouais, j'imagine, mais il y avait pas beaucoup d'énigmes à résoudre quand même.
Mais le côté débrouillard, tout ça.
Ah, ça c'est certain, c'est certain.
Oui, je titillais Héra Ménard parce qu'effectivement, elle revient d'une traversée sur un voilier. Elle est allée jusqu'aux Caraïbes. Ils ont vécu à deux sur ce bateau. Donc, je me dis, c'est quand même quelqu'un de débrouillard.
Et de résilient, sans doute.
Oui, certainement. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce genre de profil,
Tom? Oui,
effectivement.
Absolument.
C'est pour les nouveaux. Les nouveaux ont généralement deux profils. Il y a ceux-là qui sont comme « Bon, je vais pas être bon, mais je risque d'avoir du plaisir. Mm-hmm. » Et l'autre profil le plus commun, c'est « Ah, je vais absolument réussir. Moi, je suis vraiment brillant. On va gagner, c'est sûr. »
Oui. C'est très, très bon pour le team building, d'ailleurs, pour pouvoir juste observer les différents profils des gens. Là, c'est extraordinaire de les voir évoluer dans un contexte de stress.
Mais je pense que mes préférés première fois, c'est ceux-là qui sont vraiment, vraiment pas sûrs qu'ils vont aimer ça parce qu'ils ont l'impression d'être traînés de force, mais qui sortent puis c'est les plus heureux de la gang.
Tout à fait, tout à fait.
Mais Héra Ménard était accompagnée de quatre coéquipiers, dont certains avaient déjà fait plusieurs jeux d'évasion. C'est le cas de Tania, qui en avait déjà une dizaine à son actif, un peu partout à travers le Québec d'ailleurs. Elle est allée à Rouyn-Noranda, Amos, Mont-Tremblant, Montréal, Québec bien sûr. Alors voici Tania dans une autre attitude bien évidemment, quelques minutes avant de commencer ce jeu d'évasion ferraille hurlante.
J'aime vraiment ça quand les décors sont sacoches, je sais pas comment dire ça. J'aime ça quand il y a des beaux décors, j'aime ça quand il y a plusieurs manipulations à faire, des trucs à ouvrir. Ce que j'aime, c'est plus fouiller, trouver les trucs, puis après, je laisse les autres résoudre les énigmes.
Alors, des attentes, on parle plutôt aussi des attentes des joueurs pour les plus expérimentés. Tania, c'est le décor. Alors, on était contents, ça nous ramenait au thème de l'émission aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ce commentaire aussi au cabinet mystérieux?
Oui, puis je tiens à dire que c'est pas parce qu'on est copropriétaire d'un jeu d'évasion qu'on est des gens hyper calés en énigmes. On est tous très différents dans notre profil de joueur. Et c'est ce qui fait, je pense, la variété des énigmes. C'est que si les cinq, on a du plaisir, c'est des bonnes idées généralement. Thomas est pas mal à l'opposé de moi dans les énigmes, puis on est bien content de savoir dans des contextes de où on va jouer, parce qu'on en fait aussi.
Moi, je laisse les gens fouiller. Moi, je résous.
C'est ça. Ah bon, on reconnaît le discours. Tania était accompagnée de Rémi, qui, lui, résout donc les énigmes. Mais Rémi aussi a de très hautes attentes avant de jouer à ferraille hurlante à Cabinet Mystérieux.
Puis surtout, un décor qui fonctionne, c'est-à-dire des machines, qui soient mécaniques ou électroniques, que ça fonctionne et que ça brise pas. Parce que quand t'arrives, t'as la solution puis que tu l'essayes une fois, deux fois, trois fois, ben là, tu te dis c'est autre chose. Puis tu continues à fouiller, mais alors que c'était la première solution qui devait fonctionner. Mm-hmm. C'est un peu frustrant, ce moment-là.
La qualité des décors, hein, ça peut être beau, mais il faut que ça tienne longtemps malgré le passage de plusieurs centaines de joueurs.
Et je tiens à dire que l'érosion humaine est un fait qui est inévitable. Donc, c'est certain, à force de jouer avec des mécanismes, on n'a pas le choix. Il y en a qui brisent, on les refait, on les resolidifie, on les améliore tout le temps. C'est toujours en constante évolution. Mais on s'arrange pour que ce soit le mieux...
Le plus solide possible.
Oui, tout à fait, à l'épreuve des gens tout le temps. Puis le personnage aussi, donc le maître de jeu vient souvent calibrer. Si jamais justement on avait la bonne réponse dès le début, ben nous, notre but, c'est que les gens puissent passer à l'autre étape, là. Donc c'est pour ça qu'on écoute les groupes travailler très attentivement.
Parce que le matériel aussi simple qu'un cadenas à chiffres, ben oui, après plusieurs centaines de personnes qui y passent, ben c'est sûr que le cadenas rouille un peu.
Et on a des doubles pour tous les éléments importants parce qu'on est prévoyant.
Tu parles de cadenas à chiffres, des cadenas directionnels, Jess?
Oui! Tout simplement, mais pas tout le monde connaît les cadenas directionnels. C'est quoi un cadenas?
Plug-toi.
C'est quoi un cadenas directionnel, Marc?
On n'a pas une quote déjà d'enregistrer pour ça.
Non, je ne l'ai pas inséré aujourd'hui.
Ah, zut, on vous en reparle la semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine, on
c'est
vous dévoile ça.
C'est l'énigme du jour, cadenas directionnel. Essayez de deviner comment il faut ouvrir le cadenas. On ne dira rien ceux qui connaissent. On a Stéphanie.
Le plus dur, c'est le reset.
Oui, aussi.
Dans le stress tout le temps.
On a aussi Stéphanie qui fait partie de l'équipe et qui, elle, a d'autres attentes encore.
Honnêtement, c'est la complexité. C'est vraiment de voir. Puis souvent, il y a tout le temps une autre étape que tu t'attends jamais. Puis t'essayes de rentrer puis de voir tout ce qui peut se passer. Puis ça va souvent au-delà de ça. T'es pas capable de prévoir comment ça va finir puis qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est le fun quand t'as des bons partners, sinon je reste toujours à l'étape 1 ou 2. Je vois jamais qu'est-ce qui arrive.
Stéphanie qui, elle, croit vraiment au travail d'équipe. C'est ce qu'on peut...
C'est important quand même.
Ben oui, elle avait deux coéquipiers avec qui elle avait l'habitude de jouer. Mais la complexité des énigmes aussi, est-ce qu'il y en a qui doutent quand ils viennent chez vous de la difficulté du jeu? Alors on parlait de battre des records, l'esprit battre des records.
L'esprit de battre les records... Vaut mieux pas l'avoir chez nous, étant donné que on n'a pas les jeux les plus difficiles, loin de là. Notre but, c'est surtout de faire en sorte que les gens se sentent vraiment comme des héros. Donc, s'ils sont pas proches de la fin, en fait, s'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils sont passablement proches de la fin.
Je dirais quand même qu'après 10-15 minutes de jeu, on sait tout de suite si le groupe est autonome ou pas. Donc, on les écoute toujours travailler. On essaie surtout de remettre sur les rails, donc de pas donner les réponses tout cuit dans le bec. Il y en a des gens qui ont peur de jouer avec, d'avoir des comédiens dans les jeux, justement, à cause de ça. Ils ont peur de se faire donner les réponses, de se faire pousser vers la victoire. C'est pas notre objectif. Par contre, notre objectif, c'est que un joueur débutant ait autant de plaisir qu'un joueur qui en mange pour déjeuner, puis que tout le monde vive un moment inoubliable. Donc, je vous dirais que c'est ça.
Des fois, les animateurs sont à la limite des nuisances.
Ça dépend lesquels. Ça dépend
si une équipe est trop bonne. Le but, c'est que tu peux la ralentir.
C'est ça. Je veux dire, c'est arrivé à certains moments où le groupe allait tellement bien, tellement en avance. On a presque fait ça.
On se gêne pas pour faire des interventions pour rajouter du piquant en tout temps et pour rajouter de l'effet wow aussi.
Donc, moi, c'est ce que je préfère quand je vais faire un jeu d'évasion. Si je sais que le jeu va être un peu plus facile, j'espère qu'on va mettre des bâtons dans les roues.
Absolument.
Je pense que ça dépend des esprits de chaque équipe. On va écouter Maxime maintenant, pour qui c'est le premier jeu d'évasion. Et attention, je pense que ça bouille à l'intérieur.
Je m'attends à quoi? Ah, Je suis pas stressé. Je m'attends d'être très calme et d'avoir du plaisir, ouais. Mais ça me réconforte de voir qu'il y a plein d'amis qui l'ont fait souvent puis qui sont encore ici aujourd'hui. C'est ça.
Pas un profil commun, ça.
Il serait heureux qu'on parle de lui comme ça. Mais moi, Maxime, j'ai adoré l'observer parce qu'effectivement, il n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Puis c'était vraiment Ira Ménard qui l'avait traîné là-dedans. Puis elle l'avait convaincu. Puis il a suivi son groupe. Mais finalement, ça s'est bien passé, je vous rassure. Donc voilà un peu pour le portrait du groupe. On va terminer avec au moment où j'interview ce groupe-là, donc l'équipe des Raménards, ils sont dans l'accueil du cabinet Mystéris. Puis on parlait, c'est un cabinet de curiosité, donc il y a déjà des attentes qui se créent. Voici les impressions de Rémi sur votre accueil. Vous êtes toujours demandé ce que pensait Rémi. Voici la réponse.
Je suis pas déçu en rentrant, là. C'est le plus beau décor que j'ai vu jusqu'à date. C'est vraiment bien fait, c'est minutieux, tout est placé, puis ça fait vraiment cabinet.
Paris réussi.
Pas la toilette, là.
Non.
Sabrina est heureuse. On est content de vous les partager parce que, vous devez les entendre entre deux corridors.
Tout à fait, mais quand même, ça fait toujours plaisir. On a mis beaucoup d'amour et passé quelques nuits blanches à faire tout ça, donc c'est très le fun de voir que c'est apprécié.
Alors, Marc et moi, on était cachés, entre guillemets, dans la salle de contrôle, dans la salle des caméras de cabinet Mystéris, pendant que Ira Ménard et son équipe jouaient. Évidemment, on vous fera pas écouter ce qui se passait à l'intérieur de la salle. Faut aller la faire, Ferrailleurland chez cabinet Mystéris. Mais il y a tout de suite quelque chose qui nous a marqué avec l'équipe d'Ira Ménard. C'est qu'ils étaient très bons, Marc.
Meilleurs que nous, moi.
Oui, déjà. Ça, c'est pas dur, tu sais, on n'est pas les meilleurs non plus.
La chance du débutant, peut-être.
Mais non, parce qu'il y en a quand même trois qui ont... deux qui ont une dizaine de jeux, une autre qui en a cinq, deux qui n'en ont jamais fait. Donc, quand même, une équipe assez mixte. Mais ils allaient très, très, très rapidement, Marc, pendant le jeu.
Je fais oui de la tête. Là.
Oui, mais des commentaires
sur... Quand tu te dis, on ne voit pas...
Mais même le maître de jeu nous disait waouh, ça va extrêmement vite. Il faut le dire, il y a une énigme en particulier où ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer, nous on a mis 15-20 minutes à la résoudre.
Peut-être 10.
D'ailleurs, je salue Alexis Tremblay-Morel qui a animé ce groupe-là, qui a eu beaucoup de plaisir.
Oui, c'était réciproque, je cherchais le mot. mais ils étaient très forts dès le début, ils ont avancé très très vite. Et non sans surprise, ils ont réussi à s'échapper des maraudeurs. Et on va écouter, à défaut d'avoir, comme je vous disais, le pendant, voici l'après. Et ça va faire un sacré contraste avec tout ce qu'on vient d'entendre. Voici l'après Ferraille Hurlante pour Ira Ménard et son équipe.
Hey, bravo. Alors?
C'était trop le fun. Moi, j'ai adoré ça.
Ouais.
C'est fun parce qu'on peut pas mourir pour vrai, tu sais. Fait que c'est juste un bon thrill, finalement.
Comment tu t'es stressé?
Oui, ça a bien été. Ça a commencé dans une pièce pleine de c'est une pièce de bois. C'était bien pour mettre dans l'ambiance, c'était parfait, mais c'est vraiment le fun, puis on prend goût, je veux dire. À chaque fois que tu trouves une réponse, ça te donne confiance de trouver la prochaine.
Des fois, j'avais un petit thrill de « OK, non, faut que je sorte, faut comme que je trouve la solution. » Ça te met vraiment dans l'ambiance de... C'est un apocalyptique, fait que le décor, tu peux pas imaginer que t'es à une autre place, là.
Personnellement, c'est les meilleurs décors que j'ai jamais vus, là. Les décors sont incroyables. T'as des indices plus faciles, plus difficiles, mais c'est ça qui te fait avancer beaucoup dans l'histoire. C'est vraiment bien.
Mais tu sais, niveau travail d'équipe, c'est sûr, tu peux pas faire ça tout seul, là. Tu sais, vraiment, non.
J'ai beaucoup aimé
qu'il y ait vraiment une bonne continuité entre les indices, parce que ça arrive des fois quand tu fais des jeux que tu trouves un indice, tu sais pas à quoi il sert, ou tu sais, il va servir vraiment plus tard, mais tu te rappelles plus que tu l'as trouvé. Mais ici, ça va vraiment bien, c'est super linéaire, puis je trouve que ça aide beaucoup à résoudre l'énigme.
Alors, un grand bravo à l'équipe d'Héra Ménard qui
c'est
a réussi
Ferraille
Hurlante. Ben oui, vos impressions, Thomas et Sabrina, parce que là, on a la totale.
Oui. Ah, il y a une chose qu'on n'a pas dit, qui nous démarque aussi de nos voisins avec amour. On est un cabinet de curiosité, mais les gens entrent dans des peintures, dans des tableaux, en fait. Donc, nos scénarios sont en réalité des tableaux, qui ont été faits par Christian Roy, donc, qui est un peintre de Québec qui a fait ça spécialement pour nous. Alors, chaque porte, c'est un petit feeling Mario 64, là, très, très le fun.
On se fait aspirer par le tableau.
Donc, voilà.
Imaginez.
Ah, tout le monde a une image, déjà en partant. Voilà.
Effectivement. Alors, vos impressions sur l'équipe, c'est ça, ils sont très, très enthousiastes. Là,
c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. C'est pour des réactions comme ça à la fin de chaque jeu. Là. Donc, c'est les réactions qu'on espère, bien sûr.
Je vais dire, au début, moi, j'étais même pas capable d'aller animer dans les salles parce que j'étais trop stressé de savoir la réaction des gens. Maintenant, quand j'entends ça, ça me fait toujours, toujours un velours. Je suis moins stressé.
C'est ça. C'est notre bébé,
hein. C'est éminemment plaisir.
Ah, c'est ça. C'est tellement important pour nous, là. On veut pas, on veut que les gens vivent quelque chose puis s'en souviennent, puis je pense que c'est les détails, on est très très pointilleux, c'est ça qui fait la force aussi du cabinet mystériste, mais c'est ça, comme des parents fiers de leur enfant, on a quand même toujours peur que des gens aiment pas le jeu et tout ça, donc c'est sûr que si on avait pas de doute, on pourrait pas parfaire notre job puis penser aux moindres détails le plus possible.
Et je pense que la plus excitée du groupe, c'était Héra Ménard. On l'a entendu, c'est elle qui crie malade dans le micro, à tel point que ça a pu saturer. Alors, on va le voir. 3 jours après cette expérience incroyable, est-ce que Héra Ménard est dans le même état? Elle est avec nous au bout du fil pour en parler. Bonjour Héra.
Bonjour. Oui, 3 jours après, j'y pense encore autant. J'ai vraiment adoré ça. J'en parle à tout le monde depuis que je suis allée. C'était la première fois, moi, que je faisais ça. Donc, il y avait aussi la surprise la première fois.
Ben oui.
Et puis, j'ai adoré ça. Très, très bien fait. On rentre tout de suite dans l'action avec les décors. Puis, de toute façon, dès qu'on arrive au cabaret mystériste...
Cabinet.
C'est tellement, cabinet. Tellement bien.
Cabinet tellement... mystériste, oui, oui.
J'ai étudié comme il faut?
Cabaret, t'as dit.
Oh, cabaret.
C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Ouais.
Bref, c'est ça. Il vous accueille avec un petit thé, puis c'est déjà décoré là, à merveille. On dirait qu'on rentre chez un apothicaire. On dirait vraiment qu'on rentre dans une autre époque, déjà en partant. C'est ça. On a fait Ferraille Hurlante.
Oui, on vient de l'entendre. En fait, on a eu les impressions. Okay. Je sais, elle est en pratique, Héra, parce que, on va le dire, hein, elle est en spectacle, notamment ce jeudi 20 juin au kiosque Edwin Mélanger. C'est sur les plaines. Et c'est gratuit, d'ailleurs, si vous voulez la voir, donc la découvrir dans son univers folk country. Ça sera à 20h, c'est gratuit. Ça y est, je l'ai dit, Héra.
Oui.
Donc, c'est pour ça que tu n'as pas pu entendre l'émission. Mais oui, on vient d'entendre l'expérience incroyable que vous avez eue. Et. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que vous étiez tellement excité d'avoir réussi, d'avoir joué, que vous avez enchaîné le deuxième scénario de Cabinet Mystériste, Marcheur de rêve.
Hey, on a enchaîné le deuxième, on était tellement énervés, on a tellement aimé ça. Et Marcheur de rêve, un tout autre monde, un tout autre univers. Faire les deux titres, c'est vraiment quelque chose que justement, on peut voir toutes les différences des deux tableaux, si on veut, là. Puis Marcheur de rêve, c'est ça, c'est pas linéaire. Alors c'est vraiment spécial. Ce que je veux dire par c'est pas linéaire, c'est que c'est pas un indice qui permet d'ouvrir exemple une porte et ensuite une autre porte et ensuite une autre porte. Là, c'est comme il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir en même temps, puis ils nous préviennent à l'avance, ils disent restez pas tous ensemble pour résoudre des énigmes parce que vous y arriverez pas, il faut vous séparer. Alors ça rajoute quasiment une difficulté de plus. Mm-hmm. Puis moi, j'étais comme un peu déficit d'attention là, dans cet environnement-là parce que j'avais envie d'être partout, tu sais, je trouvais ça...
N'en dis pas trop, hein, Héra.
C'est un univers un peu plus à la sauce Tim Burton, pour ceux qui se posent la question, là, juste pour donner une idée. C'est pas Tim Burton, c'est un univers qu'on a inventé, mais si vous aimez Tim Burton, je pense que vous allez triper.
Mais n'importe quel conte pour enfants aussi.
Oui, c'est ça,
aussi,
c'est onirique, dans du ludique.
Enfant, fantastique, ça va vous plaire, c'est sûr, il y en a pour tous les goûts.
Ouais.
Donc, Héra, on l'a compris. En plus, ils ont réussi aussi, celui-là.
Bravo, bravo.
Mais on l'a trouvé difficile, par exemple. On était bon, je pense.
Vous étiez une très, très bonne équipe. Vous étiez impressionnant à voir aller. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Héra Ménard, de t'être prêtée au jeu. On te souhaite d'en faire plein d'autres. des jeux d'évasion.
Oui, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à vous.
Et puis, bah, comme je le disais, jeudi 20 juin, au kiosque Edwin Bélanger, tu seras en spectacle gratuit. Il faut vraiment aller voir ces spectacles-là sur les plaines. C'est très intime, c'est une belle ambiance. Puis si on a des belles journées comme aujourd'hui, ça va être très agréable. Également, dans Charlebourg, dans la programmation des week-end shows du Très Carré, ça sera le 19 juillet au kiosque du Parc de la Commune. Merci beaucoup, Hera Mena.
Exactement. Merci, bye-bye.
On va écouter un extrait de ces chansons, Hera, parce que vous vous demandez peut-être c'est quoi le style. J'ai dit c'est folk country. On écoute tout de suite un extrait de son répertoire. Voici « Et si » Hera Ménard.
Assise au bord de la fenêtre, je vois nos débuts naître et des questions qui se dessinent. Comment la vie nous prédestine? Car s'il a fait plus ce soir-là, je serais sûrement restée chez moi. Alors qu'en aurait-il été si nous nous étions manqués? Si le jazz et ses standards ne jouaient pas les mercredis soirs, nous serions nous rencontrer à l'opéra ou au musée. Dans un message, un peu d'espoir, un jour peut-être te revoir. Et si les mots n'existaient pas, aurions-nous marché ce jour-là? Ah, ah. Chaque seconde, aurions-nous vécu des bonheurs teintés de pire et de meilleur? Si nos passés et nos blessures disparaissaient avec l'usure, nous saurions nous séparer et nous saurions nous retrouver.
Hera Ménard qui va chanter maintenant cette chanson en pensant aux victoires qu'elle a eues dans les jeux d'évasion. On vient d'entendre « Et si ».
Au kiosque Edwin Bélanger, il y a de la place pour danser.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est ça comme ça, parce que moi je danse le swing, puis c'est vraiment un endroit où on va souvent se donner rendez-vous pour danser. Fait que ça a l'air dansable tout ça, je vais peut-être aller faire un tour.
C'est sûr que ça va se dandiner ce jeudi 20 juin au kiosque Edwin Bélanger pour voir Hera Ménard, et je le disais également le 19 juillet dans Charlebourg. Apportez votre chaise d'ailleurs au kiosque Edwin Bélanger, si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Voilà. On continue. Canne directionnelle et lampe UV consacrée au décor des jeux d'évasion aujourd'hui. Important pour apprécier un jeu d'évasion. On a compris que pas mal quand même, hein, au courant de cette émission. On est toujours avec nos invités de Cabinet Mysteris, entreprise la petite dernière qui a ouvert à Québec. C'était en décembre 2018. Ils sont situés dans Sainte-Foy. Et rappelez-vous, on avait commencé l'émission avec Sébastien Côté, accro de jeux d'évasion à Québec. Il y en a une vingtaine à son actif dans la ville de Québec. Et lui, il n'a jamais fait encore les jeux de Cabinet Mysteris. Alors j'imagine que ça t'a titillé un peu tout ce qu'on a raconté sur ces différents scénarios.
Ouais, ben là, je suis en studio, puis là, moi, je pourrais parler pendant plusieurs heures, puis là, je les écoutais parler, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, post-apocalyptique, oh mon Dieu, ça, c'est cool.
Puis ça, là, c'est un thème qui te parle aussi, c'est ça?
Voilà, exactement. Puis là, Tim Burton, puis là, tout ça, puis là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fait que là, voilà, j'étais un peu
t'as de venir chez nous.
Voilà. On sait ce que tu fais à soir après l'émission, finalement.
Ouais. Si seulement on travaille. Il n'y a pas demain. Non, mais bref, non, c'est ça, voilà. Puis tout ce que vous avez mentionné, justement, le décor, à la seconde où on rentre dans l'établissement, là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial. Et puis, wow, franchement, j'ai extrêmement hâte.
Yes. Quelles attentes on peut avoir pour les décors en 2019? Moi, je me souviens être sortie de l'année 2018. On avait fait Cabinet Mysteris avec Marc. On avait fait plein d'autres jeux d'évasion, bah, plusieurs autres, où les décors étaient incroyables. Selon vous, c'est quoi? Est-ce qu'on va aller vers les entreprises de jeux d'évasion ont plus de moyens, donc ils vont faire plus de décors de fous, ou on va rester quand même dans ce côté artisanal qui existe, hein, chez Cabinet Mysteris? Vous faites tout vous-même. Sébastien, peut-être ton avis, toi, sur la question?
Eh bien, je pense que c'est important de rester dans dans le réalisme, en tout cas, bref, dans les univers de tout genre, mais dans le réalisme, dans le sens qu'il y a, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, là, comme la réalité virtuelle, des choses comme ça, je suis pas certain que ça amène l'immersion tant attendue.
Avec l'ère numérique, je pense qu'on a un besoin de vivre du vrai de plus en plus.
Exactement. C'est ça qui est le fun dans les jeux, c'est que c'est nous qui le vivons, on sait pas, on est un personnage virtuel.
Puis en passant, Éric Lizotte a quand même travaillé sur le plateau de tournage de La Momie. Donc,
ça, c'est, premier, c'est son premier.
Donc, c'est un scénographe exceptionnel, là, vraiment. Là. Donc, c'est tout.
Éric Lizotte, qui est l'un de vos scénographes?
Oui, c'est notre scénographe principal de Ferrailles Hurlantes. Vraiment, là, c'est
Il a aussi donné beaucoup
incroyable.
De conseils à Samé Rose.
Oui, oui, tout à fait. Donc, vraiment, là, on n'a pas un ticoun, comme qui dit.
Mm-hmm. Donc, Sébastien, du réalisme et...
Ah ouais, ben c'est ça, c'est vraiment là, puis faut que ça touche tous les sens, tu sais, autant l'audio pour ceux qui sont auditifs, le toucher, les odeurs si possible.
Les odeurs, je suis pas capable.
Ah, c'est génial, ça nous rappelle, on entend une chanson, on sent quelque chose, ça nous rappelle un souvenir, donc c'est le même principe. Moi je pense qu'il faut que en 2019 on ait touché vraiment le plus de sens possible puis le plus de réalisme possible dans les décors. Je pense que c'est l'effet le plus important là pour se démarquer. Là.
Et pour Cabinet Mystéris, Thomas Roussel nous l'a dit un peu plus tôt, vous travaillez déjà sur votre troisième scénario qui devrait ouvrir au courant de l'année 2019, on l'espère?
On l'espère, et ça semble réaliste, à prime abord. Mais pour le moment, je me fierais à dire, ça semble réaliste à prime abord et rien de plus.
Et la thématique, ben elle va être aussi très 2019, moi, de ce que j'entendais chez différents propriétaires de jeux d'évasion, parce que c'est un thème encore peu exploité que vous allez aborder avec cette troisième mission.
Oui, notre troisième tableau sera comique et pour le moment, on n'en révélera pas plus.
Mm-mm. On sait rien sur l'histoire.
Mais on est tombé sur un vieux tableau qu'on compte restaurer bientôt. Puis vous allez avoir des nouvelles.
La prochaine peinture va vous surprendre. Si vous avez fait les deux autres, ça va être complètement différent.
C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Et on rappelle, on peut déjà essayer Ferrailles Hurlantes et Marcheurs de rêve chez Cabinet Mystéris. Il suffit de réserver sur le site internet. Rappelez-moi l'adresse.
Donc,
Cabinet Mystéris avec deux i.ca.
Puis d'ailleurs, on est situé au 1535 Chemin Sainte-Foy. Donc, la première énigme, c'est de trouver l'endroit. On n'a pas encore d'enseigne sur notre façade d'édifice. C'est l'édifice avec un Subway, un Kiro et tout ça. Donc, on est dans cette bâtisse-là. Il faut nous trouver en premier. C'est le réchauffement avant de voir des vraies énigmes, finalement.
Vous êtes ouvert tous les jours?
Tous les jours, sauf le lundi.
À réserver donc sur le site internet si vous voulez réserver déjà votre prochaine aventure, tel sera le cas certainement de Sébastien Côté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.
Ça fait plaisir.
À très bientôt, on va te réinviter.
Parfait,
merci.
Pour parler
d'autres thèmes, c'est certain. Merci beaucoup à nos deux invités de Cabinet Mystéris, Sabrina Cloutier et Thomas Roussel.
Merci beaucoup.
Merci
puis,
à toi.
Venez vivre l'impossible chez nous quand vous voulez.
Et Marc Raymond, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Il est toujours
aussi.
Sage. Il est dans son coin. Moi, c'était Jessica Leb et j'étais ravie de vous accompagner pour ce nouveau numéro de Cadenas Directionnel et Lampe UV. Dans quelques instants, changement de registre avec Chucky McDonald et sa loi du rock. Bonne soirée à tous sur les ondes de CKRL 89.1.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.
C'est... Je suis une voix.
K.
Je puis être musique.
R.
Je suis un disque.
C'est
KRL. Les choses étant ce qu'elles sont.